Ce podcast de Comic City est sponsorisé par Pulps Bordeaux, votre choix de comics, statuettes, toys et produits dérivés en Gironde. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h, toute l'équipe vous attend, 56 rue du Loup ou sur la page Facebook du magasin.
Bonjour à tous et bienvenue sur le 154e Comics Weekly. Nous sommes le jeudi 25 juillet. Au sommaire, nous parlerons de Marvel, bien sûr, avec la sortie du tant attendu Hunger, ou pas. Nous parlerons bien sûr aussi du masochisme récurrent de Bruno, de What If AVX, et bien sûr d'autres sorties, hein, comme un Super Spider-Man team-up. En indé, nous aurons deux nouvelles séries, Mass Effect et Army of Darkness versus Hulk and Slash. Et enfin, chez DC, la suite de Trinity War. Je suis Steve et vous écoutez le Comics Weekly. Et avec moi cette semaine, en duo, seul, on va se faire des câlins, des papouilles, Bruno.
Oh oui, bonsoir à toutes et tous. Je suis là avec toi, Steve. Et j'aimerais commencer déjà en te souhaitant un joyeux anniversaire.
Mais merci beaucoup.
Voilà, c'est quand même cette semaine.
Oui, c'était hier en fait.
Voilà.
Au moment où on enregistre, hein, bien sûr.
Donc n'hésitez pas, tous les auditeurs et auditrices, envoyez des photos de vous nus à Steve. Je pense qu'il appréciera.
Ça va être énorme, ça va être épique. Alors, je tiens à préciser que je n'ai dormi que 2 heures, donc je suis complètement explosé. Je vais dire n'importe quoi ce soir, mais ça risque d'être drôle. Et non, je ne suis pas bourré, je n'ai pas bu, je ne me drogue pas. Voilà, je tiens à dissiper tout malentendu avant
Au moins, comme ça, c'est
que
précisé.
Ma crédibilité s'écroule à la fin de cette émission. Allez, on va commencer le programme de cette semaine et on commence par Marvel. Marvel qui sort un titre que l'on attendait depuis la fin des Joe Fultron comme le Messie. Ça s'appelle Hunger, c'est le numéro 1 d'une mini-série et c'est Bruno qui nous en parle.
Eh oui,
normal,
enfin,
il n'y a que lui.
Enfin, un titre ultimate pour commencer un Comics Weekly. Alors, c'est quand même bien la première fois. Bon, effectivement, il n'y a pas marqué 150... ultimate dans le titre, c'est pour ça peut-être.
Non, ça n'a pas guidé mon choix, c'est juste que c'était la sortie la plus importante de Marvel de la semaine. Et 154 quatrième Comics Weekly, il aura fallu attendre pour que Ultimate remporte la palme de « Je démarre ».
Voilà, c'est ça. Et bon, ça s'appelle Hunger. Bon, maintenant, il y a prescription. Hein. Avec Geoff Ultron, ça s'est terminé il y a un petit moment. On avait vu Galactus apparaître dans l'univers Ultimate à la fin des Geoff Ultron. Et bien, cette mini-série va retracer un petit peu le combat galactique entre les personnages de l'univers Ultimate et Galactus. Donc un numéro qui est écrit par Joshua Hale Fialkoff et dessiné par Leonard Kirk. Ça commence de façon assez amusante avec le retour de Rick Jones qu'on avait découvert dans Ultimate Origins. C'est le Nova en fait de l'univers Ultimate qui est parti pendant un an dans la galaxie pour essayer de sauver l'univers.
D'accord, c'est Nova. D'accord, j'avais pas compris. Je me disais bro, c'est un personnage cosmique quelconque.
Ouais, non, c'est Nova. C'est la version Ultimate de Nova.
Qui il a un costume de merde.
Il a un costume. Bah, il ressemble à la torche humaine, hein. C'est clair. Mais donc voilà, il avait été envoyé par les Watchers, qui sont ces sortes de grosses pierres avec des yeux, qui n'ont rien à voir du coup avec les Watchers de l'univers Ultimate.
Pour aller. Je les ai jamais vus moi encore ceux de la version Ultimate.
Ouais, bah c'est justement dans la mini-série Ultimate Origins que je conseille à tout le monde parce qu'elle est vraiment très sympa. Elle donne beaucoup d'informations sur l'univers Ultimate.
Petite question, justement, qui pourra peut-être intéresser nos auditeurs. Est-ce qu'elle est de la même qualité que ce numéro qu'on est en train de lire?
Ah, bah, c'est mieux Ultimate Origins quand même. Parce
d'accord.
Qu'il y avait vraiment beaucoup de révélations sur beaucoup de choses, en particulier.
Parce que si tu me dis que c'est aussi bien, je n'irai pas. Hein.
Non, mais je me doute. Parce que, hors antenne, tu m'as déjà dit que tu n'avais pas trop aimé.
Ouais, on va en parler.
Donc, reste
je te laisse
que
continuer sur le pitch. Hein,
ça commence avec Rick Jones qui, après un an dans l'espace, décide de revenir sur Terre pour un besoin très pressant, à savoir manger des hamburgers.
Donc, faire caca!
Pardon. Peut-être aussi.
Je vous avais prévenu que ça allait être n'importe quoi.
Ah, ça s'est mal barré. Et donc, les Watchers sont pas vraiment contents qu'il retourne sur Terre parce qu'il a du boulot dans l'espace, puisqu'une menace hyper importante arrive. Cette menace, c'est Galactus. Donc ça arrive pas tout d'un coup, puisqu'il y a différentes choses pour arriver à ce niveau-là. On voit la guerre entre les... Bah justement les Skrulls, non pas les Skrulls, qu'est-ce
les
que je raconte. On est les Kree, mais aussi contre les Chitauri, parce que dans l'univers Ultimate, il n'y a pas de Skrulls, mais il y a des Chitauri.
Et si voilà. Tu cries Chitauri, ça fait Chitauri.
Voilà, c'est ça, exactement.
J'ai honte, j'ai extrêmement honte.
Je crois que ce podcast va être ultime. donc voilà, c'est un numéro que j'ai trouvé assez bien écrit par rapport à Rick Jones, puisque c'est un gosse, hein. C'est un gosse qui a vraiment pas de chance. Il a été choisi par les Watchers pour devenir Nova, alors qu'il avait pas du tout envie de l'être. Et là, on ressent bien le gars, bah, ça le saoule, quoi, d'être Nova. J'ai trouvé ça plutôt bien dessiné aussi. Donc, ce petit nouveau, enfin, Leonard Kirk, moi je connaissais pas trop.
Il a fait pas mal d'X-Factor, notamment.
Eh ben, il se débrouille pas mal. Il se débrouille pas mal. Il y a deux trois splash pages assez sympas. La colo est bonne. Donc ça, la colo, c'était, j'ai oublié de dire son nom, mais c'est Jesus Aburtoff. Donc comme
Oh,
c'est Jesus, c'est
Résus.
normal que ce soit bien.
Oh putain.
Voilà. Et puis bon, on a
Tu
droit
vas
quand
te
même
mettre
à...
à dos tous les musulmans, les
Non, non, mais
juifs, les hindouistes.
c'est pareil pour tous les autres
Le
prophètes.
mec, il se mouille pas.
Voilà. Et donc il s'ensuit l'arrivée donc du fameux Galactus qui a faim. Et là, il se passe quelque chose d'assez fou.
Alors,
Que Steve, toi, tu as...
précise, c'est Galactus, hein, pour que les gens puissent bien différencier les deux, parce que c'est vrai qu'ils portent le même nom, mais c'est
Ouais.
pas écrit pareil.
Bah oui, bah il y avait Galactus, et là il va rencontrer le vrai Galactus, et bah voilà, et ça fait comme dans Dragon Ball Z. Mais bon, vous verrez. Et
Putain, quelle scène de merde.
moi j'ai trouvé ça plutôt cool. Et voilà, toi t'en as pensé quoi? Alors vas-y, dis-nous
Alors
tout.
moi honnêtement je ne connais que très très peu l'univers Ultimate, hein, j'ai jamais caché, je suis pas fan de cet univers, parce que je m'en fous, ce qui m'intéresse c'est la Terre 616 et pas une redite des histoires que je connais. Alors je ne savais pas pour Nova, ce qui rend la chose encore plus bizarre finalement, ce côté le Watcher qui parle avec lui, on a vraiment l'impression de relire le Nova d'Abnett et Lanning avec le World Mind qui lui parle. Donc clin d'œil ou juste pompage parce que je savais pas trop quoi faire. Ah, je sais pas. J'ai envie de dire clin d'œil et j'ai envie de penser que Joshua Ilfiakov est plutôt quelqu'un qui fait des clins d'œil plutôt qu'il repompe des histoires parce qu'il n'a pas d'idée. Le mec débarque et il est quand même plutôt doué pour le moment de ce que j'en lis en tout cas.
Bah, en fait, il a, c'est vrai comme tu dis, clin d'œil, c'est qu'on voit qu'il s'est bouffé du Ultimate et il essaye de faire plaisir aux fans en réintroduisant des choses qui ont été publiées il y a plusieurs années, et qui étaient un peu retombées dans l'oubli, donc comme Galactus, comme justement Rick Jones. Donc il a bien fait son travail avant de prendre la licence Ultimate.
Ouais, mais du coup, tu vois, le fait que tu m'annonces que c'est Nova, il y a aussi ce problème que c'est très proche du Nova de Jeff Loeb, maintenant.
C'est vrai, bah c'est un gosse, ouais, aussi pareil.
Ouais, bah ouais, mais encore une fois, le problème de l'univers Ultimate et de sa redondance avec l'univers classique. Bon, parlons de cette guerre dont je me fous royalement parce que les cris et les chitauris de cet univers-là, bah, je les connais pas, donc que l'un ou l'autre crève, j'ai envie de dire, moi, peu importe, je suis pas forcément la cible que ça intéresse. Je l'ai lu vraiment parce que, honnêtement, cette semaine, il n'y avait pas grand-chose qui m'intéressait. Bon, voilà, déjà. J'avais prévu de pas aller voir cette mini au départ non plus. Mais alors, ce qui m'a terminé, c'est quand même cette fameuse scène de fusion que j'ai trouvée d'un ridicule.
Ah, c'est moins
Mais...
pire que le Megazord quand même.
Ah, pour moi, c'est au même niveau. Pour moi, c'est vraiment le même niveau, c'est-à-dire, putain, on a vu des mangas, waouh, trop bien. L'animation japonaise, c'est trop génial, on va remettre dans les comics maintenant, waouh, trop cool. Bon, voilà. Franchement, j'ai pas vraiment envie d'aller voir la suite, quoi. Et tout ce que j'espère, c'est que ce putain de monde va disparaître et qu'on n'entende plus
Oh, arrête,
jamais
arrête,
parler
arrête,
de Nova
arrête, arrête,
Ultimate.
arrête.
Mais le problème, c'est qu'à chaque fois que j'ai lu des trucs qui était censé être sur l'univers Ultimate, hormis Spider-Man, bah dans l'ensemble, je me faisais un peu chier, quoi.
Je suis pas d'accord, mais moi
Ah, mais bien sûr, enfin, comme je dis, ça n'engage que moi.
j'espère vraiment que Cataclysme, ce sera juste une façon un petit peu de relauncher à nouveau l'univers Ultimate, mais pas de
Oh
l'arrêter, quoi.
putain, et encore, quoi. Ils vont pas nous faire le coup tous les 2 ans.
Bah, Ultimatum, c'était plutôt cool, j'avais bien aimé, donc. Et par la suite, il y a eu des bonnes histoires, donc.
Non, mais je veux dire, relauncher encore et encore et encore et encore, mais c'est lassant, quoi.
Ça peut être lassant, j'avoue.
Moi, je persiste à dire que c'est une fusion et que l'univers Ultimate va disparaître et que bah, les personnages restants arriveront dans l'univers 616. Hein.
Et la fusion est quand même pas mal teasée avec ses... Enfin, même déjà à la fin d'Age of Ultron, hein, quand on voyait que le time stream était changé et que tous les personnages voyaient des versions alternatives d'eux-mêmes, ils se rendaient compte qu'il y avait des versions alternatives d'eux. C'est vrai que ça tease un peu peut-être une future fusion. Bah voilà, ils vont revenir, je sais pas, 30 ans après DC, ils vont nous faire Crisis on Infinite Earth. Voilà.
Ouais, mais ouais, c'est bien possible. C'est bien possible. Donc finalement, pour toi, c'est quelque
Bah moi
chose
c'est
de
un,
plutôt
c'est co
positif.
bah c'est plutôt positif parce que bon, je suis fan Ultimate et moi c'est je l'ai acheté et j'étais vraiment content de découvrir ça. J'aurais aimé que ça démarre peut-être un peu plus rapidement. Il y avait un petit peu d'humour au début, c'était cool, mais c'était quand même un peu longué et Il me tarde de voir la suite et j'espère que ce sera un petit peu plus péchu. On utilise des retours vraiment intéressants, donc j'espère que ça sera cool.
J'ai juste une petite question de noob. Est-ce que les Chitauri sont si importants que ça dans l'univers Ultimate, ou est-ce que c'est franchement pour ratisser large et ramener des gens qui ont été voir Avengers?
Bah, les Chitauri ont été créés dans l'univers Ultimate.
Oui, ça je sais, oui, mais est-ce qu'ils sont toujours aussi importants?
Bah, on les voit beaucoup moins, mais ils étaient surtout là dans l'arc de Millar. Et surtout, en plus, là, ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont le design qu'on a dans les films, alors que dans l'Ultimate de Millar, ils n'avaient pas vraiment ce design.
Donc, ça ratisse large.
Voilà. Ça ratisse large, effectivement.
Ouais, ouais, ok. Pour moi, c'est... Check it moins, parce que les dessins sont sympas. Le personnage de Rick Jones, c'est pas mauvais, hein. C'est juste qu'il y a trop de similitudes quand on connaît bien l'univers classique par rapport à l'univers Ultimate. Donc, allez, check it moins pour pas dire impasse. Du coup, oui, toi, un bail, excuse-moi.
Ouais, moi, c'est un bail.
Alors, on va passer à la suite, quelque chose qui va être d'ailleurs ton coup de cœur de la semaine. C'est bien sûr l'excellent What If AVX3.
Ouais, non, je vous le dis déjà, hein, ce serait un pass, hein, parce que, bon, j'ai tenté, hein, de continuer, parce que j'avais quand même déjà dépensé $8.
À ce niveau-là, ça s'appelle avoir trop d'argent ou du sadomasochisme?
Bah, non, mais j'avais vraiment envie de savoir si ça allait être mieux, quoi. Et, alors déjà, il y a une erreur sur la page, puisque, la couverture, puisque c'est pas les bons crédits. Mais on a Jimmy Palmiotti au scénario, ça c'est bon, mais par contre au dessin, on a un nouveau dessinateur, c'est Gerardo Sandoval, donc probablement de la même famille que Rafa Sandoval, puisque il est encré par Jordi Tarragona, qui est quand même l'encreur attitré de Sandoval chez DC, il me semble.
Non, il a simplement décidé de changer de prénom.
Ouais, voilà, oui, mais c'est... Non, en fait, oui, c'est ça, ben, faut dire que c'est un style, alors c'est un style qui essaye d'imiter du Madureira et du manga, donc déjà ça change beaucoup par rapport aux deux numéros d'avant, qui était déjà pas très très beau, mais alors là, je suis vraiment pas fan. Puis alors le scénario, c'est bateau quoi. Maintenant Hope est devenu le Phénix, il y a Magneto qui fait en sorte de la manipuler pour qu'elle détruise tous les humains et voilà. Après c'est lambda, il y a des héros qui meurent de façon complètement expéditive. J'ai pas vu de choses inventives. J'ai mal aux fesses, hein, mais j'irai quand même lire la fin parce que maintenant j'en ai acheté 3, donc j'ai quand même lire le 4. Mais...
Puis tu prendras le TPB, bien sûr.
Pas exagérer, je veux pas prendre le TPB, je le conseille pas, je vais dire un pass.
Ah, ben on comprend pourquoi Jimmy Palmiotti a écrit ça, hein. C'était deal.
Ouais, j'adore les couvertures par contre, là elles sont super chouettes, mais c'est tout.
Ouais, mais enfin, $4 la couverture.
Ça fait un peu cher.
Je crois que tu peux la trouver très facilement sur internet, la couverture, de façon tout à fait légale, et te l'imprimer en méga poster. Même si tu as une imprimante A3, tu peux te le faire en A3 et t'en faire un très joli poster.
J'ai bien compris, Steve. Bon, bah, c'est un pass.
Non, mais voilà, je persiste à dire aussi, encore une fois, comme je l'ai dit, je sais plus si c'était lundi ou lundi dernier, dans le Weekly News, que je pense que Jimmy Palmiotti a fait ça parce que ça lui permettait de pouvoir amener son personnage Painkiller Jane chez Icon. Je pense que ça devait être donnant-donnant.
C'est possible.
Allez, passons à la suite du programme. Quelque chose de nettement mieux. On va en discuter. C'est le Uncanny Avengers numéro 10. Toujours au scénario Rick Remender. Rick Remender qui fait une énorme gaffe. J'y viendrai tout à l'heure. Et puis, au dessin, nous avons l'excellent Daniel Acuña qui nous signe encore une fois des pages superbes. Vraiment somptueuses. Il n'y a absolument rien à dire. C'est un travail magnifique. Je sais que tu l'as pas lu, peut-être.
Non, mais je l'ai feuilleté. Je l'ai feuilleté. J'ai pas eu le temps de le lire, mais c'est toujours aussi beau. J'adore ce qu'il a fait. Les numéros précédents étaient déjà très beaux, et ça s'annonce super sympa, quoi.
Ah, franchement, c'est très très propre. C'est vraiment très bon. Alors, on va essayer de revenir sur l'histoire. Et il y a quelque chose qui m'a énormément choqué dans ce numéro, et avec le recul, ça aurait dû me choquer avant. C'est la façon dont Remender écrit son histoire et fait parler ses personnages avec ses bulles aussi, enfin ces espèces de textes narratifs. En fait, on est mais vraiment dans du comics old school, mais old school à mort. C'est incroyable. Et on a une scène de dialogue entre Havok et Wanda dans les années 80, ça aurait peut-être été la meilleure scène écrite au monde. Mais aujourd'hui, j'arrive pas à me placer. J'ai vraiment le cul entre deux chaises. D'un côté, j'aime bien ce style parce que je vais pas le cacher, j'ai toujours été très nostalgique de ces vieux comics. Mais en même temps, aujourd'hui, ça fait un peu daté et un peu trop... c'est limite écriture soap, quoi. C'est « John, je ne suis pas sûr que nous puissions être ensemble. Mais tu sais, on peut le faire. » Voilà, c'est vraiment ça.
Après, il a le fait qu'il est peut-être l'un des seuls à le faire encore chez Marvel. Donc du coup, c'est un peu original. Mais c'est vrai que déjà, même dans le premier arc avec le Red Skull, c'était déjà cette narration assez à l'ancienne où on voit qu'il avait peaufiné son texte, mais que c'était presque trop lourd.
Ouais, et puis en plus il y a des moments où il essaye, alors ça c'est comme dans le premier arc, il essaye d'imposer une espèce de petite morale pseudo-politico-sociale, mais couille, ça marche pas, enfin c'est tellement du truc de bas étage que ça fonctionne pas pour moi, enfin toi, pour moi ça ne fonctionne pas, j'ai vraiment l'impression que c'est le mec, c'est vraiment de la philosophie de comptoir quoi. Mais dans l'exemple années 80, et c'est vrai comme tu disais, c'est vrai que dans le premier arc, c'était le cas, et j'aurais dû m'en rendre compte plus tôt. Mais il y a des moments où on voit carrément des descriptions. J'essaye de retrouver la page là en même temps, et donc je gagne du temps, tu vois, je meuble comme je peux, où on a un Wolverine qui se fait laminer, enfin non, un Thor, pardon, qui se fait exploser, et puis alors, on voit le terrible pouvoir l'emmène très loin, enfin, mais vraiment, on est dans du comic purement old school. Et c'est ça qui est complètement dingue. C'est
ouais,
que
c'est
aujourd'hui, comme je dis, d'un côté, je suis très content de voir ça parce que j'aime bien ce style, mais aujourd'hui, n'est-ce pas trop daté pour en faire quelque chose de cohérent avec le reste? Voilà, bon, c'est un style. Je suis partagé. J'arrive pas à me donner un avis clair et définitif si j'aime ou si j'aime pas. Voilà. Maintenant, pour l'histoire. Alors, les Uncanny Avengers sont séparés. Rappelons-le, ils se sont un petit peu frités concernant Wolverine. C'est Cap qui a pété un peu les plombs et qui l'a engueulé. Et on va d'ailleurs comprendre pourquoi dans ce numéro, ce qui revient à ce que je disais en intro sur cet épisode, une erreur de Remender, et je vais y revenir encore un petit peu après, je laisse monter le suspense,
ouais,
la
suspense,
tension.
Suspense, là,
tu vibres.
J'en peux plus.
À vous, tu as les poils du torse qui vibrent, ouais, d'impatience.
Non, c'est l'effet du ventilo sur mes poils, ça, juste. Il fait très chaud, hein. C'est la canicule, Bordeaux.
Voilà, bon. Les Avengers sont séparés. On a d'un côté Havoc avec Scarlet Witch, Captain America, Wasp et Simon Williams, alias, je retrouve plus son...
Wonder Man,
voilà. J'avais Machine Man qui me venait, je savais que ce n'était pas ça.
Wonder Man,
qui sont ensemble. Et puis de l'autre côté, on a une équipe avec Wolverine, Thor, Rogue, Sunfire. Et j'espère que j'ai oublié personne. Sinon, tant pis pour eux.
Ouais, ils t'en voudront.
Ouais, je les attends et qu'ils viennent me casser la gueule. Du coup, ils vont essayer d'enquêter chacun de leur côté pour essayer de découvrir cette vérité sur les jumeaux Apocalypse et vont tomber face à face avec les personnages qu'on avait vus teaser déjà depuis quelques mois et qui avaient débarqué à la fin du dernier épisode, ces fameux nouveaux Horsemen of Death, quatre vieux personnages qui ont été réanimés par les jumeaux Apocalypse et qui sont tous les quatre des cavaliers morts.
Blackest Night,
effectivement, un petit peu. Alors, cette erreur dont je vous parle depuis tout à l'heure, cette erreur de Rick Remender, c'est qu'il se s'auto-spoil, en fait, la fin de son arc de Captain America qui sortira le mois prochain, puisque cette semaine est sorti l'épisode 9, qui est l'avant-dernière partie. C'est con. C'est très très con. Il nous raconte... il nous spoil pas la fin exactement, mais il donne pas mal d'éléments en ce qui concerne la compréhension du pourquoi Captain America était dans cette espèce de dimension parallèle, combien de temps il y est resté, combien de temps ça a équivalu chez nous. Et je suis pas sûr de la conjugaison de mon verbe, mais c'est pas grave.
Ouais, mais on va... À moins que Maître Capello nous écoute, je pense que ça passe.
En même temps, j'ai dormi 2 heures, hein, c'est excusable. Et puis aussi un petit peu le sort qui a été réservé à ce petit gamin. Bon, pour les lecteurs de Cap, vous comprendrez de quoi on parle.
Ouais.
Et c'est franchement dommage. Alors on avait déjà ces problèmes de raccord entre la destruction de The Peak, qui était la base du Sword, qui avait été détruite il y a de ça 3 ou 4 épisodes maintenant dans Uncanny Avengers, et qui n'était pas du tout référencé dans les autres séries par Hickman et Spencer. Et là, c'est carrément Remender qui n'est pas raccord avec sa propre série.
Après, au moins là, il sait comment ça se termine, donc ça va être raccord et il fait référence à ça. Pour le pic, moi, ça me gênait plus parce que là, du coup, c'est vraiment quelque chose qui était complètement pas normal, quoi. Parce que.
Ah, puis alors, ils insistent encore lourdement là dans cet épisode. Hein, on l'a dans le résumé, on l'a 2-3 fois dans l'épisode, dans le numéro, pas dit par des personnages que le pic est détruit. Bon, apparemment, pas chez Hickman. Bref, ça va amener des confrontations, les Avengers vont être à nouveau séparés, et franchement, ça annonce énormément de bon. Chaque personnage se trouve face, on va dire, à sa némésis. On ressort éminemment classique, mais qui fonctionne toujours assez bien. Franchement, bon épisode. Bon épisode, il faut toujours environ 8 heures pour le lire, par contre, parce que c'est très verbeux.
Mais moi, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai dormi 2
heures. C'est pour ça que j'ai dormi 2 heures, j'ai lu Uncanny Avengers. Non, j'exagère, il faut une bonne vingtaine de minutes pour le lire en prenant relativement son temps, en admirant les dessins d'Acuna, ce qui est quand même assez rare pour être signalé. On en a pour notre argent à chaque fois avec cette série. On est vraiment très loin du premier arc, et ça fait vraiment plaisir, et j'ai hâte de découvrir la suite quand même. Et c'est bien dommage que tu ne l'aies pas lu.
Bah ouais, mais j'ai un petit peu de retard là, sur Uncanny Avengers.
Non mais je comprends. Mais tu vas te faire un régal quand tu vas les lire. Bon, il faudra que tu prennes une semaine de congé, je pense, pour rattraper 3 épisodes.
Ouais, mais ça sera cool.
Enfin voilà, un bail pour cette semaine, un bail pour cet épisode d'Uncanny Avengers numéro 10. Passons à une nouvelle série, en tout cas un changement de titre et donc redémarrage à numéro 1. Je suis surexcité, je parle super vite, je sais pas ce qui se passe. C'est le truc café qui agit.
C'est génial.
Ça s'appelle Superior Spider-Man Team Up Number One. C'est toi, Bruno, qui l'a lu. Et moi aussi.
Et oui. Et puis alors là, franchement, le coup de le renuméroter, ça a vraiment aucun sens, puisque c'est vraiment la fin, en fait, de ce qui s'est dépassé dans Avenging Spider-Man, justement, ce qu'avait fait Chris Yost, sur le titre, puisque, bah voilà, enfin, il n'y aurait pas eu de changement de nom pour ce magazine, ça serait très bien passé, mais bon, là, du coup, ils vont peut-être en vendre plus, mais ils sont revenus au numéro 1.
Mais, rappelle-toi, nous sommes au mois de juillet, et c'est le Superior Spider-Man Month.
Eh oui, voilà, donc, pour ça. Alors, donc, j'ai dit Chris Yost au scénario, on a David Lopez au dessin, Andy Owens à l'ancrage. David Lopez, c'est pas mal. C'est moins beau que ce qu'on a eu jusqu'à présent sur Avenging, mais c'est sympa quand même. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce numéro ? Ben, en fait, on a les Avengers qui se rendent compte que ça va pas. Il y avait déjà eu plusieurs indices qui leur avaient mis la puce à l'oreille. Et a priori, il aurait tué Massacre. Il se passe des choses dans le Shadowland qui sont expliquées dans Superior Spider-Man 14 que j'ai pas lu, donc je peux pas savoir ce qui se passe, mais il y a une note de l'éditeur.
Donc un massacre. Excusez-moi pour le retard de blague, j'étais en train de boire en fait et je pouvais pas réagir, sinon j'allais cracher partout.
Voilà, donc il est un peu extrême là maintenant, Superior Spider-Man, mais bon, il est efficace, hein. Au moins ça, on peut pas lui enlever ça, il est très efficace. Mais du coup, les Avengers se disent c'est bizarre. Alors là, surtout que là, c'est vraiment pas la journée puisque Spider-Man se met à tabasser tous les super-héros de New York. C'est-à-dire, on le voit s'en prendre à Daredevil, on le voit s'en prendre à Cloak and Dagger. Voilà, il est vraiment très énervé, on sait pas ce qui se passe.
As-tu remarqué, cependant, quand Cloak and Dagger interviennent, ils interviennent sur un espèce de petit braquage avec des mecs qui ont des cagoules. As-tu remarqué comme les cagoules ressemblent fortement, en variation, au masque de Spider-Man 2099 ?
C'est vrai, ouais. C'est des lucha libre un peu 2099.
Ouais, mais ça m'a fait tilt, quoi. La couleur, la façon dont c'est fait. Enfin, je me suis dit, putain, si c'est pas un gros indice que Miguel O'Hara va pas tarder à débarquer.
Ouais, non, mais c'est vrai. Mais déjà, enfin, moi, j'ai déjà été séduit par le comics dès la deuxième page quand il fout une putain de beigne à la pauvre Dagger qui s'en prend une bonne dans la gueule, quoi.
En fait, il avait le choix. Soit il frappait une femme, soit il frappait un noir. Il s'est dit, bon, je vais frapper une femme, ce sera mon raciste.
Là, c'est ça.
Il va avoir toutes les associations féminines au cul, mais j'ai trouvé ça sympa qu'ils mettent une patate à une meuf aussi. Parité, quoi.
Bah ouais, quand même, parité. Et donc voilà, après il s'en prend au FF. Enfin, c'est vraiment le bordel. Et du coup, les Avengers se disent, il faut absolument qu'on intervienne. Et là, on a un bon petit twist parce que voilà, s'il faisait ça, c'était pas pour rien. Et ce Superior Spider-Man, il est quand même assez balèze. Et moi, j'ai bien aimé le retournement de situation. J'ai bien aimé ce méchant là qui est introduit. On comprend mieux aussi pourquoi il est là par rapport à ce qu'on a vu dans Avenging Spider-Man, puisque ça fait déjà 4-5 numéros qu'on a un autre méchant derrière qui trame pas mal de choses. Voilà, moi j'ai vraiment été surpris. Et alors la fin, moi j'ai trouvé ça plutôt cool parce que s'il a vraiment l'intention de faire ce qu'il montre sur la dernière case, ça va être assez bizarre pour faire vraiment comprendre encore aux autres qu'il est vraiment Spider-Man. Mais voilà, moi j'ai trouvé ça cool. J'ai bien aimé ce titre. Je sais pas ce que t'en as pensé. Enfin, tu l'as lu un petit peu.
Ouais, je l'ai lu en diagonale, honnêtement. J'ai eu du mal à rentrer un peu dedans. Bon, j'ai
lu. T'as pas lu les Avenging, toi, parce que c'est vrai que.
Non,
quand même,
j'ai pas lu les Avenging.
Ça manque, hein, parce que c'est vraiment la fin de l'arc. Hein. C'est vraiment la fin de ce qu'il avait
peu
fait
importe,
sur Avenging.
J'ai compris. Franchement, j'ai compris l'essentiel. Pas besoin d'aller lire les épisodes d'avant. Enfin, je ne sens pas le besoin. J'ai pas l'impression qu'il me manque des clés par rapport à cet épisode-là. En termes de numéro 1, ça remplit très bien son affaire. On peut très bien le prendre. C'est peut-être une fin d'arc, mais
c'est
en tout cas, c'est vraiment un bon jumping point.
Ça passe
point.
Bien aussi.
Même à la rigueur, on ne saurait même pas qu'il y a une série avant. Ça changerait rien. Ce que j'ai pas aimé, Parce que bon, je vais pas dire que j'ai aimé l'épisode parce que ce serait pas vrai. J'ai pas aimé la face, le retournement. Enfin, le retournement de situation était un peu gros et surtout c'était un gros moyen pour essayer de rectifier le tir pour moi, puisque on savait Spider-Man était en probation vis-à-vis des Avengers de par son nouveau comportement très violent. Hein, c'est Octopus, hein, rappelons-le, méga spoil. Et cette façon de faire regagner un peu la confiance vis-à-vis de Captain America que l'on va trouver dans cet épisode, je ne vais pas dire comment, je ne vais pas dire pourquoi, mais voilà, c'est vraiment pour dire « Ah, on va changer notre fusil d'épaule, finalement, on ne va peut-être pas faire revenir Peter Parker, comme ils nous l'ont bien précisé pendant la Comic-Con, on ne va pas le faire revenir tout de suite, donc il va peut-être falloir qu'il revienne un petit peu dans les Avengers, pour, notamment pour Infinity, puis parce que ce sera plus simple. »
Ouais, mais au final, moi, je trouvais ça plutôt bien amené, quand même.
Mais moi, je trouve ça un peu forcé, honnêtement. Avoir un Spider-Man qui était vraiment regardé en chaîne faïence par les autres, c'était pas si mal que ça, dans l'idée que, enfin, je veux dire, les mecs qu'il a fréquentés pendant années, mais il a un mec qui a un comportement violent, c'est tout à fait logique.
Mais ça reste dans un seul sens, puisque autant les Avengers ont peut-être un peu plus accepté, mais autant Spider-Man, les considère toujours comme des grosses nouilles. Et... Alors ils peuvent lui servir un petit peu, mais
on est dans le titre. Oui, c'est ça. On est dans le titre Spider-Man, donc forcément c'est Spider-Man qui a le beau rôle. Et je dois avouer notamment que Octo-Spider-Man ne me séduit toujours pas. Je n'arrive pas à rentrer dans ce personnage. C'est pas le Spider-Man que j'ai connu. C'est pas le Spider-Man que j'aime. C'est pas un refus d'évoluer. C'est juste que ce n'est pas le Spider-Man que j'aime. Voilà.
Franchement,
j'ai beau essayer, je fais des efforts, hein, j'essaye vraiment ce que j'ai. Enfin, je veux dire, si le titre marche autant, le titre Superior Spider-Man marche autant, il y a une raison. Mais vraiment, je n'arrive pas à rentrer dedans. Il n'y a pas moyen. Donc, je suis un peu déçu. Par contre, on a deux épilogues. On a une fin, qui est assez intéressante, enfin, qui peut être assez intéressante, même si je n'ai aucune idée de comment ça peut être amené sans poser de gros problèmes. Et surtout, la page d'après, le vrai épilogue, on va dire, la vraie dernière page du comic, par contre, m'a saoulé. M'a saoulé
grave. C'est parce que t'en as marre de ça.
Mais ça fait 56 fois qu'on le voit. C'est vraiment ridicule, quoi. Changer de ficelle. Il y a d'autres ennemis que ça. Voilà. Donc, dans l'ensemble, moi, j'ai pas été séduit. L'épisode est quand même relativement fun à lire de ce que j'en ai lu, comme j'ai lu en diagonale. Voilà. Check it, quoi. Allez, check it.
Alors pour moi, c'est un bail. J'ai vraiment bien aimé.
Et on va terminer cette fois-ci par ton vrai coup de cœur de la semaine pour Marvel.
Mon vrai coup de cœur.
Non, c'est pas une blague cette fois-ci. C'est le vrai, l'unique, le seul, le coup de cœur de la semaine. C'est New Avengers numéro 8 et je ne sais pas pourquoi je prends cette voix.
Mais c'est bien. Ça fait une super voix, un petit peu de host et tout. C'est trop cool, quoi.
Je vais surtout aller prendre une grosse dose de cachet après.
Ouais, je pense. J'ai déjà appelé l'hôpital, hein, t'inquiète.
D'accord, c'est ça les lumières que je veux.
Ouais, c'est ça, ils vont venir te chercher.
Attendez, laissez-moi finir la mission.
Alors, donc, New Avengers, donc Jonathan Hickman au scénario, bien sûr, et Mike Deodato au dessin. Donc, Steve Epting se repose un petit peu. Et Mike Deodato, c'est pas non plus le dernier des nuls, hein, donc il nous fait un très très beau numéro. C'est sublime. Moi, j'aime beaucoup Mike Deodato.
Alors, j'aime les deux. À choisir, je préfère Deodato, mais franchement, les deux sont tellement bons.
Là,
que...
c'est vraiment très classieux. Et alors, je serais tenté de vous dire, c'est le vrai prologue à Infinity, en fait, qui commence, puisque
le seul que j'ai pas lu cette semaine, comme par hasard.
C'est vraiment celui où on voit apparaître la menace, où on les voit arriver et où ils sont présentés. Donc voilà. Sinon, le titre tourne quand même toujours autour de beaucoup de petites histoires. Il y a toujours ces incursions qui risquent de détruire l'univers. Il y a cette guerre qui a été enclenchée entre le Wakanda et le Atlantis. Il y a toujours Iron Man qui essaye de trouver une solution pour parce qu'il a dans l'espace il a vu des choses qui lui ont appris que ça allait de mal en pis pour l'univers, donc il fallait qu'il se prépare.
Et la puis on a du mec dans l'espace qui a vu quelque chose, ça me rappelle fortement ce qu'a vu Lorna dans les X-Men, hein, longuement la questionné, et finalement la réponse était vraiment minable. Donc j'ai toujours peur quand tu me dis qu'il y a quelqu'un qui voit un truc dans l'espace mais qu'on sait pas forcément ce que c'est.
On voit un
ça
truc
me fait penser à ça.
J'ai pas lu encore tous les Iron Man, mais je sais pas si on le voit dans Iron Man ça, mais c'est un truc bizarre quand même qu'il voit dans l'espace. Et alors par contre, il y a toute une partie qui est super intéressante, ça on sait maintenant que ça va avoir de plus en plus d'importance chez Marvel. Il y a toute une partie sur Attilan où on voit les Inhumains On voit le frère de Black Bolt qui a préparé quelque chose d'assez assez puissant. On voit Black Bolt avec Medusa qui discute, c'est très intéressant. Et voilà, donc un numéro prologue à Infinity qui place bien les choses, qui est très très beau et qui nous montre ces fameux méchants qu'on va découvrir dans Infinity, avec une très belle page à la fin que j'ai beaucoup aimé. Enfin, voilà, pour moi c'est vraiment un super bon numéro et il me tarde de plonger dans Infinity. Voilà. Après, moi j'adore Hickman, donc ce qu'il fait sur,
dire,
j'adore ce qu'il fait sur Avengers surtout.
Concernant le fait que les Inhumains prennent de l'importance, il est peut-être temps, étant donné que on le sait maintenant déjà depuis quelques semaines.
Ah, voilà.
Le post, le Marvel post Infinity, ça sera Inhumanity avec la nouvelle série Inhumain qui auront un rôle très important. Si on veut pas que ce soit Deus Ex Machina à la fin de l'event, il faut déjà commencer à les introduire maintenant, quoi.
Voilà,
Deus Ex Machina.
Et du coup, là, c'est quand même plutôt bien fait. Donc voilà, donc pour moi, ça, vous avez compris, c'est mon gros coup de cœur de la semaine et un gros bail. Voilà.
Très bien. Et c'est tout pour notre partie Marvel. Du coup, j'ai bien les boules de pas avoir pris celui-ci, enfin de ne pas l'avoir lu cette semaine. Enfin, faut dire que j'ai lu Uncanny Avengers aussi. Hein. C'est l'équivalent de 8 comics.
Moi, je suis surtout déçu que t'aies pas lu What If AVX. Mais...
j'ai pas commencé et je ne vais pas rattraper. Hein. Rassure-toi. Passons à notre partie digitale très rapidement avec, vous le savez, un de mes chouchous, Jeff Herber. J'en avais parlé le mois dernier avec la suite de sa série Anti-Hero. C'est le numéro 2. Ça sort chez Monkey Brain, c'est disponible au prix de 99 cents, c'est vraiment pas cher. Alors le premier épisode était un épisode double, on va dire, il faisait 16 pages, à peu près. Celui-ci n'en fait que 8, ça vaut que 99 cents. Hein.
C'est pas beaucoup, 8 pages quand même.
C'est pas beaucoup, mais il l'a déjà dit, chaque épisode, il y en aura un par mois, chaque épisode fera fera une dizaine de pages. C'est le prix, bon, ça c'est prévu comme ça, 10 pages, bon pour 99 cents, à la rigueur, ça, même en mettant 20 pages le format d'aujourd'hui et en doublant le prix, ça reste moins cher qu'un comic traditionnel.
C'est vrai.
Alors, le principe d'Anti-Hero, alors je vais spoiler peut-être un peu le premier numéro, mais pour que vous puissiez comprendre de quoi parle la série, on a un héros le plus connu apparemment des super-héros du coin, qui s'appelle Paragon. Alors j'avoue que le nom n'est pas forcément très très recherché, hein. Il y en a beaucoup de personnages qui s'appellent Paragon. Mais le petit twist de cette histoire, c'est que un mec qui bosse dans une espèce de mafia, on dirait un espèce de sous-chef du Kingpin, parce qu'on a un espèce d'équivalent du Kingpin dans cette ville, va découvrir l'identité totalement par hasard du Paragon et va le faire chanter.
D'accord.
En lui disant, tu vas bosser pour moi, parce que sinon, je vais révéler quelle est ton identité réelle, mais aussi où tu habites, où sont ta femme et tes enfants. Et bien sûr, il y a une assurance, si tu me tues, ce sera révélé au grand public. Et bien sûr, la plupart des super-vilains viendront exploser la gueule de ta famille.
D'accord, donc c'est un recruteur de talent, en fait, pour The Voice, parce qu'ils veulent faire chanter.
Oh putain, c'était beau, ça. Oh, c'était bienvenu. Je voyais pas où tu allais, mais...
Non, c'était long.
Je te tire mon chapeau que je n'ai pas, hein. Mais ouais. Voilà. Imagine
Nono,
qu'il y ait...
pourrait te prêter son chapeau.
Et donc, ce Paragon va devoir bosser pour, finalement, une espèce de mafia, et va devoir aller braquer des vilains, piquer le fric des vilains pour le compte d'autres vilains. Et à cet effet-là, il va justement changer d'identité et se découvrir un nouveau costume, etc. Enfin, franchement, c'est vraiment super sympa. J'ai hâte de voir où ça va. J'aime beaucoup cette histoire. À moitié super-héros, à moitié crime. Et c'est vraiment très fun. C'est vraiment pas cher. 99 cents. Ça vaut que dalle. Et on passe un bon moment à la lecture. Il y a que 8 pages, mais elles sont bien remplies. Et voilà. Il y a peut-être que 8 pages, mais on n'est pas en train de se dire, ah merde, c'est déjà fini. Enfin, si. On a envie d'en avoir plus, mais.
Ouais, ça a l'air bien, mais là, tout ce que tu m'as raconté, ça m'a fait vachement penser à Super Crooks. Je sais pas si tu l'avais lu, où justement, il y avait les vilains qui cambriolaient des vilains et qui avaient fait chanter hein, le plus grand des super-héros et parce qu'ils connaissaient un secret sur lui et ils l'avaient utilisé pour faire leur méfait. Donc ça fait vachement penser à ça.
Je peux pas révéler l'autre twist parce que je voudrais pas trop spoiler. J'ai envie que les gens aillent le lire
et
qu'ils soutiennent
ce
projet.
Hein.
L'intérêt, c'est quand il va cambrioler, quand je dis qu'il va cambrioler des vilains, c'est d'autres mafias en fait.
D'accord.
C'est surtout ça. C'est pas forcément des super vilains qu'il va aller cambrioler. C'est d'autres mafias. Et le petit twist intéressant, c'est quelle mafia c'est en fait. C'est ça le plus intéressant du twist et c'est ça qui est très drôle. Et voilà, enfin moi j'aime beaucoup encore une fois ce que fait Jeff Herber. Je suis un addict de
J'irai
de
jeter
ce...
un oeil.
de ce mec-là, et j'aime beaucoup tous ses projets. Donc voilà, soutenez-le, c'est chez Monkey Brain, ça vaut 99 cents, c'est vraiment pas cher. Pour moi, c'est un bail. Voilà. On va passer maintenant à la partie indé, et c'est toi, Bruno, qui t'en charge, parce que je n'ai pas lu d'indé cette semaine.
Bah oui, mais on sait très bien que tu n'aimes que le mainstream. Hein,
je n'aime que le mainstream, ouais. Je suis fan de What If AVX.
Exactement, voilà. Voilà. Et on va commencer avec un titre Dark Horse, puisque je vais vous parler d'un nouveau numéro 1, Mass Effect Foundation. Donc un ongoing Mass Effect, enfin ongoing j'espère, mais en tout cas c'est, il y aura au moins 13 numéros.
Ah bah ça avait été teasé comme ongoing ouais à la base.
Puisque le premier arc a priori il va faire 13 numéros puisqu'il y a marqué part 1 of 13, voilà.
Putain, ils annoncent la couleur, on fait comme Matt Fraction.
Ouais ça déchire quoi. Donc Mac Walters au scénario, donc ça peut rassurer les fans puisque c'était quand même le scénariste principal de Mass Effect 2 et Mass Effect 3, donc il doit connaître quand même un petit peu son univers, et des dessins de Omar Francia, des dessins que j'ai trouvé plutôt efficaces, bien que parfois j'avais l'impression que c'était un petit peu trop à l'ordinateur, mais c'est voilà, c'est quand même plutôt efficace on va dire, et on retrouve bien l'univers de Mass Effect. Donc on commence avec il y a un gros twist dans ce numéro, dès le numéro 1, donc ça c'est pas mal, puisque on commence à, je vais pas vous dire ce qui se passe, mais c'est cool. En fait, on voit un personnage qui essaye de s'en prendre à un chef de Cerberus, les fans de Mass Effect comprendront, et qui essaye d'assassiner justement des chefs de Cerberus. Pour cela, elle va dans une zone où il y a des esclaves, des enfants esclaves et tout, et
elle utilise... Oh, la belle vie, quoi.
Ouais, voilà, elle utilise... Elle arrive à se lier d'amitié avec un enfant esclave qui va l'aider à mener sa mission. Mais elle, c'est quand même plutôt une assassine. On sait pas d'où elle vient, on sait pas pour qui elle bosse, peut-être pour le Shadow Broker. Mais voilà, en fait, on voit un petit peu comment elle s'y prend pour pouvoir atteindre ce fameux chef de Cerberus. Et il s'ensuit un combat. Voilà, c'est bien écrit, il pose bien les personnages. Et puis là, après, t'as un bon gros twist à la fin qui m'a énormément surpris. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça cool et j'ai vraiment envie de voir la suite.
Alors, Mass Effect. Quelques petites questions. Pour moi qui suis un gros noob de l'univers Mass Effect, je sais, honte à moi, je ne m'y suis pas encore mis. J'ai très honte, j'irai me flageller après l'émission, mais vous ne le verrez pas. c'était crédible. Est-ce que l'on voit les personnages du jeu, en tout cas certains personnages du jeu?
Pas dans le premier numéro. Dans les sollicitations, on a vu passer certaines images des personnages du jeu. Mais justement, il joue bien le jeu, à savoir dans le sens que, comme dans le jeu, on suit un personnage et qu'on peut faire sa propre histoire avec des changements au niveau du scénario, je pense qu'ils vont essayer de faire en sorte que l'histoire soit possible pour tous les joueurs, quelle que soit la façon dont ils ont joué leur jeu. Donc, en tout cas, dès le premier numéro, on a des clins d'œil par rapport à l'univers, mais on ne croise pas des personnages du jeu.
Et alors, ma deuxième question, c'est est-ce que c'est canon? Et si oui, à peu près à quel moment c'est censé se passer? C'est vraiment pour les gens qui découvriraient Mass Effect ou qui n'ont jamais lu comics Mass Effect.
C'est indiqué, hein, ça se passe 3 ans après la guerre du premier contact. Donc c'est pas dans Star Trek, hein, mais c'est 3 ans après que les Turiens et les humains se soient rencontrés et qu'ils se soient rendus compte qu'il y avait des portails pour pouvoir passer dans les différentes galaxies.
Ouais, mais en termes de background, moi, ça me parle pas trop, parce que vu que je n'ai pas fait le jeu, est-ce que donc ça se passerait avant le premier
Mass Effect? Ça se passe bien avant le premier Mass Effect, puisque le premier Mass Effect se passe, je dirais, une trentaine d'années après la guerre du premier contact.
D'accord, ok. Non, voilà, c'est vraiment pour essayer de situer, et justement, est-ce qu'un noob, d'après toi, un noob comme moi de l'univers Mass Effect qui n'a jamais joué au jeu, pourrait aller lire ce comic sans être trop, trop perdu? Enfin, moi, j'accepte de pas tout comprendre, mais...
Je dirais que l'intérêt est quand même moindre. Même si, parce que au final le scénario est plutôt bon, il y a une bonne surprise, les dessins sont pas géniaux, mais c'est plutôt efficace. Mais par contre ça vaut quand même beaucoup pour les fans, parce qu'ils ont envie de découvrir un petit peu, de retrouver cet univers qui s'est arrêté maintenant avec le troisième opus. On sait pas encore si on aura une suite et comment ça va se passer.
Si, bien sûr. Ouais, ça a été annoncé déjà.
Ouais, pour l'instant on n'a pas vu la couleur, mais je dirais que pour les fans c'est un bail. Pour les gens qui connaissent pas du tout Mass Effect, jetez-y un œil, ça peut être un bon petit comics de SF.
Alors, petite question bonus, très très vite, est-ce que d'après toi ça peut nous annoncer des pistes pour le scénario du quatrième justement Mass Effect ?
Justement, sachant que c'est Mac Walters au scénario, qui travaille pas mal avec les scénarios des jeux, peut-être qu'il y place quelques pistes pour la suite des jeux, quoi. pourquoi pas. Mais là, pour l'instant, on peut pas dire. En tout cas, il y a un gros logo EA, donc Electronic Arts, sur le comics. Donc, bon.
Oui, bah, c'est normal. Hein.
Voilà, c'est normal.
Très bien. Donc, un bail pour toi?
Bah, moi, c'est un bail, parce que vraiment, je suis fan de Mass Effect, et j'ai été surpris, en plus, par le comics.
Très bien, bah passons à l'autre produit qui, oui. Alors, lui, honnêtement, m'intéresse de par ses licences, où on a le temps, on est bien entre nous.
Oui, oui c'est vrai, ouais. C'est vrai. Prenons notre temps.
Prenons le temps de vivre. Je sais pas ce qui m'arrive au secours. C'est donc Army of Darkness versus Hackslash numéro 1. J'imagine ouais. que c'est une mini. Enfin, parle-nous-en, Bruno.
Alors, c'est un titre chez Dynamite, donc c'est le numéro 1. C'est Tim Seeley au dessin, au scénario, il est tard. Donc c'est à savoir le scénariste attitré de Hack and Slash, avec des dessins de Daniel Leister, pareil qui a officié sur la série Hack and Slash. Alors une mini-série, je pense, puisque pour l'instant on a la sollicitation que sur 4 numéros et il me semble avoir lu que c'était une mini-série.
Puis souvent les projets avec Army of Darkness quand ils sont en crossover, c'est pas des régulières quoi.
Ouais, ouais. Alors après donc,
apparemment 4 numéros sûrement.
Peut-être, alors, d'accord, ok. Ouais.
Apparemment, enfin, c'est une question.
Ouais. Pour l'instant, en tout cas, il y a eu 4 numéros qui ont été présentés dans les sollicitations. Il y avait plein de couvertures alternatives. Il y en avait une de Ben Temple Smith qui est très sympa d'ailleurs. Moi, je connaissais pas du tout Hack and Slash. Je sais, c'est moi qui devrais m'auto-flageller, mais ça a l'air d'être super sympa Hack and Slash en fait.
C'est complètement déjanté. Mais c'est compréhensible que ce soit pas forcément très connu. Il y a quand même pas mal de numéros qui sont sortis, mais ça reste une série indé qui a en plus changé de publisher pas mal de fois.
Ouais, mais en une page en fait, parce que en fait c'est quand même assez bien fait au niveau du scénar, c'est-à-dire qu'on a droit à une page qui décrit un peu qui est Ash et une page qui décrit qui est Cassie Hack. Et sur cette page, on voit qu'elle a des sortes de barésilles au bras, qu'elle est en soutif et en mini jupe. Donc je pense que c'est une série qui pourrait me plaire.
Oh l'argument.
Non mais c'est vrai. Et donc voilà. Mais en plus il y a pas mal du.
Oui
monde,
en plus donc... non mais c'est honnêtement il joue vachement avec ça sans jamais être vulgaire au niveau sexuel.
Voilà.
Enfin, je veux dire au niveau de ce qu'il montre.
Ouais c'est une tueuse de monstres de serial killer a priori. Et elle est en couple lesbien avec une nana que je connais pas mais qui a l'air très sympathique aussi. Elles ont aussi un enfant. Donc il y a maman 1 et maman 2. Et alors elles étaient allées. Ça se passe vraiment directement après la fin de la série Hack and Slash, puisque le personnage principal est encore sous le choc de la fin de la série. Donc je me suis un peu spoilé à la fin de la série, mais bon c'est pas
ouais,
grave.
Évite de la spoiler peut-être pour les gens qui n'auraient pas lu, qui voudraient
justement
la découvrir.
Je vais pas le dire justement. Mais par contre ça commence donc l'héroïne n'est pas très 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 jouasse. Et quand elle rentre chez elle, en fait elle se rend compte qu'il y a peut-être quelqu'un qui a pénétré dans leur maison.
J'ai eu peur où tu partais là.
Ouais.
Je t'avoue que j'ai eu très très peur.
Et pas dans l'enfant, hein, dans la maison.
Oh non, non, mais dis pas ça.
Et donc en fait, c'est Ash en fait qui est à l'intérieur de la maison, qui faisait une enquête et essaye de retrouver des pages du livre des morts que soi-disant quelqu'un essaye de vendre sur le marché noir. Et lors de son enquête, ça l'a amené dans la maison de cette fameuse Cassie Hack. Donc là, bien sûr, comme dans tout crossover, d'abord ça se fight. Après ça fait la paix et après ça fuck. Non, ça fuck pas parce que du coup elle est lesbienne.
First they meet, then they fight, then they fuck.
Mais non, en fait après ils s'allient ensemble et ils vont ça part bien dans le gore dans l'esprit de Evil Dead. Donc ça c'est vraiment plutôt cool.
Et de Hack Slash hein.
Et de Hack Slash.
Surtout c'est gore aussi. Hein.
Alors si Hack Slash c'est aussi gore que ça, j'ai vraiment envie de m'y mettre aussi parce que
c'est gratiné. Moi ce que j'ai lu, j'ai pas lu toute la série, hein, loin de là, mais ce que j'ai lu c'était pas mal gratiné quand même.
Ah,
et la meuf, hein, je veux dire, ce qu'elle mange, c'est énorme quoi. Elle bouffe, mais tu te relèves pas normalement après ça.
Du coup c'est vraiment une bonne association puisque Ash c'est quand même un peu le personnage, le mec qui s'en prend le plus plein la tronche quoi. Donc là les deux vont faire équipe justement pour essayer de savoir pourquoi quelqu'un essaye de vendre les pages du livre des morts, pourquoi est-ce que l'enquête de Ash l'a amené chez Cassie Hack. Donc un numéro très efficace avec pas mal d'humour. Voilà, moi je dis franchement un check it plus tendance buy quoi parce que moi ça m'a même donné envie pour tout vous dire après j'ai commandé les omnibus pour la boutique de Hack and Slash parce que voilà ça a l'air bien.
Mais finalement, est-ce que c'était pas aussi le but, est-ce que ce n'est pas le but avoué de ces crossovers de faire connaître les licences?
Bah peut-être, parce que moi je connais, c'est plus Army of Darkness, et du coup ça m'a fait connaître Hack and Slash et bah, ça a bien marché quoi.
J'ai envie d'aller. Que tu aurais pas sûrement pris si tu l'avais vu sur un étalage, mais que là du coup ça tient, ouais. Tu t'y intéressais.
Donc un très bon titre Dynamite.
En plus, tu seras pas perdu vu que c'est écrit par Tim Seeley, donc voilà.
Ah, il est bon lui, hein, quand même.
Ah ouais, non, ouais, assez sous-estimé malheureusement, je trouve. Enfin, il a sa communauté de fans, mais il mériterait peut-être des projets plus grands encore. Bon, enfin bon, il est encore, on va dire, relativement jeune dans le milieu du comics. On va maintenant passer à notre partie DC, et c'est moi qui commence avec la sortie du deuxième numéro de Batman Superman. J'ai envie de faire traîner les lettres comme ça, tu vois, de Batman Superman, avec donc Greg Pak au scénario.
De bière.
Oh putain, la vache, j'aurais même pas osé la faire celle-ci. Et bien sûr, Jelly au dessin. Alors, je vous le dis tout de suite, si vous êtes déjà allergique au style de Jelly, cet épisode va vous déplaire très fortement, puisqu'il y a énormément de jeux avec les ombres, beaucoup beaucoup de jeux avec les ombres. Alors par contre, si on aime son style, on va être vraiment aux anges, et bah voilà, je fais partie de cette deuxième catégorie.
Donc tu étais l'histoire. Aux anges.
Ah oui, j'étais aux anges, oui. J'étais high in the sky, tu vois. I believe I can fly.
Bravo.
Putain, au secours. Pitié, donnez-moi des médicaments. Alors, l'histoire. On avait, à la fin du premier épisode, Superman et Batman qui se faisaient vraiment avoir par ce personnage complètement fou qui était le... Haha, tu ne t'en rappelles plus ?
Ah mais si, mais je le sais, mais je veux pas spoil.
Eh bien, nous garderons le secret jusqu'au bout. Non, c'est juste que je me rappelle plus son nom.
Oh, le fail.
Ah, le trickster, c'est ça.
Ouais, trickster.
Putain, le trou de mémoire à l'instant. Et ils étaient
envoyés sur... Il avait l'air balèze.
Sur... Oui,
il est vachement plus. Il avait l'air de venir d'une planète où il fait très chaud.
Ouais, parce qu'il était torse poil. C'est un style. C'est un style, pourquoi pas. Écoute, on a connu des hommes aussi qui se mettaient torse nu, n'est-ce pas, Bruno?
Oui, c'est vrai. Et je pensais à une autre planète, mais bon.
Ah, à quoi tu pensais?
Ah, parce qu'il me semble avoir compris qu'il n'était pas si éloigné d'Apocalypse.
Ah, j'avais pas compris. Ah, ça pourrait expliquer des trucs. Ah ouais. Ouais, ouais, très bien. Très intéressant. Bon, je vais revenir vite sur l'histoire parce qu'on va pas perdre trop de temps quand même là-dessus. C'est très bon. Donc, on a ce Batman. Alors, je rappelle que ça se passe avant, c'est vrai, j'ai oublié de le préciser. Ça se passe pas... dans le présent, ça se passe vraiment dans le passé. Ce sont les premières rencontres entre Batman et Superman, ceux de la Terre, on va dire 52, enfin celle que l'on suit, la Terre classique, quoi.
Terre Prime.
Ouais, mais je sais pas comment elle s'appelle, bah, en fait, cette Terre.
On sait pas si c'est Terre 1 ou Terre Prime, en fait, parce que.
Ouais. Moi, j'ai envie de l'appeler Terre 52. Je trouve que ça lui va bien.
Ouais, c'est pas mal. Ouais. C'est vrai.
Donc, jusqu'à preuve du contraire, chez moi, ce sera Terre 52. Voilà, je décide, j'impose. Ils se retrouvent donc sur Terre 2 face à leurs homologues, donc un Batman plus âgé et un Superman plus âgé qui pourrait presque être tout droit sorti de l'ancien univers. Enfin, c'est presque, ouais, ça ressemble tellement à ça. On a un Superman dont les parents sont encore vivants. On a un Batman qui a vécu. Bon, certes, c'est le Batman de Terre 2. Il est marié à Catwoman. Ce qui n'est un secret pour personne, hein. World's Finest,
ouais, bien sûr, ouais.
Sort depuis longtemps, c'est pas un spoil de le dire. Mais ça ressemble vraiment presque aux versions classiques que l'on connaît nous quand on est des vieux fans. Et donc ces versions plus jeunes qui ne font confiance à personne, qui ne se connaissent pas, hein. Superman et Batman ne se connaissent pas, se retrouvent séparés. Batman se retrouve dans la Batcave du Batman de Terre 2 et Superman se retrouve, comme on l'avait vu à la fin de l'épisode 1, au Kansas, avec ses parents, ne comprenant pas trop ce qui lui arrive, et bien sûr, chacun va affronter son lui-même de cette autre terre. Enfin, va l'affronter. Vont-ils s'affronter longtemps? Vont-ils discuter? Ou vont-ils se tuer, tout simplement, l'un l'autre? Pourquoi pas? C'est une autre possibilité.
Ce serait pas très raccord avec la continuité.
Ah ouais, mais sait-on jamais? Peut-être qu'il y a des tours dans le chapeau du trickster. Oui, je vais prononcer son nom 50 fois maintenant, je l'ai retrouvé. Et bien sûr, nous avons à la fin l'arrivée d'un notre personnage classique DC, le troisième membre de la Trinité.
Ça donne envie tout ça, j'ai pas eu le temps de le lire et je regrette.
Ouais, ouais, ouais. Et franchement, non, c'est vraiment très très bon. Je suis vraiment embarqué dans l'histoire de Greg Pak. J'ai envie de savoir où il nous emmène. Et j'ai envie de savoir la suite, quoi. Et surtout, cette réaction de Wonder Woman à la fin, cette espèce de cliffhanger de ouf, ça donne vraiment envie. Bref, un gros bail pour cet épisode. Moi, une série que j'aime beaucoup pour le moment. Alors, certes, on en est qu'au deuxième épisode, donc c'est encore un peu tôt pour juger vraiment de la qualité de la série. Mais sur ces deux premiers épisodes, c'est vraiment super cool. Reste à aimer le style très particulier du dessin de Jelly. Effectivement, si on n'aime pas ça, je pense qu'on n'accrochera pas à la série, définitivement. Et on va passer à quelque chose de totalement déjanté. Là, je vais être très rapide, quoique il y a énormément de choses à dire, mais le plus intéressant, c'est peut-être de le lire vous-même. C'est le deuxième épisode de Larfleeze. Larfleeze qui est scénarisé par Keith Giffen et J.M. DeMatteis, avec des dessins de Scott Collins. À la fin du premier épisode, on avait Larfleeze qui se retrouvait face à une espèce d'entité gigantesque qui venait d'un monde parallèle, enfin d'un autre univers. Là encore, une autre terre, on ne sait pas trop laquelle d'ailleurs, et puis on s'en fout. Ça n'a pas forcément vraiment d'importance. Et on a un Larfleeze déchaîné qui décide de piquer cette lance gigantesque qui fait 15 fois sa taille. Donc imaginez la taille du mec qui l'affronte.
Ouais, j'imagine. Ouais.
Voilà.
C'est le frère de Relic.
En termes de taille, peut-être, ouais, mais alors par contre, en termes de design, pas du tout. On dirait un espèce de chien sur deux pattes, enfin un homme loup peut-être, okay, avec ouais. Une énorme armure. Tu n'avais pas lu le premier ?
Non, j'ai pas lu le premier.
Ah oui, donc oui, c'est pour ça que tu vois pas forcément le design. On dirait un mec de flamme en plus. Enfin, c'est vraiment Zarbi, quoi. Et donc, il vient d'un autre univers. Et puis, il y avait son servant. Qu'il a depuis ce qu'on avait vu déjà dans la série Threshold. Rappelez-vous, cette série existe toujours.
Oui, enfin plus pour très longtemps.
Hein. Oui, mais elle existe encore. Moi, je la croyais déjà arrêtée en fait. C'est pour ça, j'ai eu la surprise de voir que ça sortait encore jusqu'au mois prochain, je crois.
Ouais.
Et puis donc on va suivre aussi vraiment l'accent d'ailleurs. C'est ça qui est très drôle dans l'histoire, c'est que l'accent va être mis sur le servant qui tape la discute avec le chien de cet ennemi de Larfleeze, et on voit donc le combat au loin avec cette espèce de petite baston entre les deux servants, mais baston juste deux mots, genre c'est mon maître qui va le défoncer, non c'est mon maître à moi, voilà. Mais en fait ils font potes, ils deviennent potes, et Larfleeze ne va pas s'en sortir.
Oh,
et oui, c'est
suspense.
Larfleeze ne va pas s'en sortir, et donc que va-t-il advenir?
Ça s'arrête au numéro 2 alors,
de ce servant. Et bien ce servant, je vais le dire clairement, est une petite pute. C'est une vraie petite pute, et il décide de proposer ses services à ce grand mec.
D'accord, donc après la connasse de Pandora, il y a la petite pute de servant de Larfleeze.
Ouais, mais il est tellement drôle, c'est tellement un opportuniste, c'est tellement un enfoiré, qu'il en devient très drôle.
Mais non, franchement, tu donnes vachement envie là, parce que c'est vrai qu'il manque un titre drôle chez DC actuellement.
Mais c'est fou, enfin, faut vraiment aimer l'humour Keith Giffen DeMatteis. Si déjà à la base on n'est pas trop fan de ce genre de style là, c'est même pas la peine d'aller voir, ça nous plaira pas. C'est absurde, il y a des moments c'est vraiment absurde, ça n'a ni queue ni tête, c'est du too much, enfin c'est tellement épique comme combat, c'est tellement too much, et on en apprend tellement, parce que c'est pareil, c'est comme Uncanny Avengers, c'est un comic qui ne se lit pas en 5 minutes, ça, on met bien 20 minutes à lire, tellement il y a de bulles partout, tellement il y a de trucs. Et puis alors on a un retournement de situation final qui est vraiment très drôle, puisque rappelons que Larfleeze donnait assez d'énergie à son servant en l'entourant d'une espèce de bulle de protection qui lui permettait de respirer, mais Larfleeze ayant disparu, comment fait-il pour encore respirer, et surtout comment fait-il pour respirer dans cet autre univers où les lois de la physique ne sont pas du tout les mêmes? De réponse à la fin de cet épisode, et franchement moi j'ai envie d'aller lire la suite. Voilà, c'est un titre fun qui pour le moment n'a pas forcément de lien avec la continuité, puis c'est très bien. Voilà, je le prends pour ce que c'est, une petite truc, on va dire check it, c'est sympa.
Non, c'est cool.
Passons au gros morceau de cette semaine chez DC, c'est la sortie du 22e épisode de Justice League Dark, troisième partie de Trinity War, Bruno.
Et oui, donc ça c'était attendu quand même, c'est Jeff Lemire au scénario et Michael Hanin au dessin, donc l'équipe habituelle de Justice League Dark. Donc un numéro, moi j'ai trouvé meilleur que le deuxième. Enfin bon, toi t'avais beaucoup aimé le deuxième, mais moi j'ai bien aimé ce numéro. C'est plus centré sur les personnages de la Justice League Dark, en particulier sur Constantine et Zatanna. On voit que... Mais
moi je trouve pas tant que ça, tu vois. Je trouve que en fait il a vraiment, contrairement à Geoff Johns qui lui n'a mis en scène que sa Justice League à lui, et puis sa Justice League of America qui est à lui aussi, donc ses personnages dans la première partie, Jeff Lemire fait vraiment tourner le cast.
Il fait tout le monde, ouais. Il fait tout le monde, et il le fait plutôt bien, d'ailleurs.
Presque pas de préférence, tu vois, pour ses personnages à lui. Il les met tous, chacun une petite scène. Contrairement à Geoff Johns, qui est pourtant en plus un habitué des crossovers.
C'est vrai, ouais. Et du coup, c'est un peu difficile à raconter, ce numéro, puisque ça va un petit peu dans tous les sens. On en apprend un peu plus sur la destinée de Madame Xanadu, qui est quand même, on le sait depuis très longtemps, immortelle. Donc la petite explosion de l'épisode 22 de Justice League l'a pas tué, mais on voit ce qui lui arrive. On voit Constantine et Shazam qui tapent la discute. On voit Wonder Woman qui essaye toujours de retrouver la boîte de Pandore et donc qui du coup demande l'aide de la Justice League Dark. Pendant ce temps, il y a le Phantom Stranger qui arrive, qui leur dit qu'il faut aller voir Dr. Light. Alors Dr. Light, on se dit ouais, mais il est mort. Donc là, mystère, mystère. Plein de choses. Ça avance.
Rappelons
bien.
Rappelons que Dr. Light a une fille. Hein.
Oui, c'est vrai.
Qui Dr. était Light. Le Dr. Light dans l'univers précédent, c'était devenu le Dr. Light. Quoi.
Oui, mais rappelons aussi que Phantom Stranger peut aller un petit peu dans tous les plans de l'univers, et ça se trouve, ça lui posera pas trop de problèmes d'aller...
Je ne sais pas, je ne lis pas sa série.
Oui, mais ça lui posera pas trop de problèmes d'aller dans les limbes de l'enfer ou du paradis pour aller discuter avec les morts, par exemple. Donc peut-être qu'il... Enfin, je sais pas. Il y a pas mal de choses comme ça qui sont expliquées. Il y a toujours ce question qui est vraiment très mystérieux, on sait pas vraiment ce qu'il veut faire. Donc c'est très dense, c'est bien dessiné. Moi j'aime bien Michael Ranin, j'aime bien ce qu'il fait, Michael Ranin. Enfin, et donc voilà, j'ai bien aimé. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé, toi ?
Bah pareil, un épisode encore meilleur que le précédent, je trouve.
Donc c'est bien, ça monte en puissance.
Ouais, mais du coup ça me fait très peur pour la prochaine partie qui sera elle scénarisée par Geoff Johns, parce que honnêtement la port de Jeff Lemire sur la deuxième partie et là cette troisième qui est écrite que par lui, alors même si on sait très bien, on va pas
oui,
se cacher,
les plots
ils l'ont écrit tous les deux ensemble, enfin ils l'ont écrit à quatre mains quoi, mais la façon dont c'est raconté là, le rythme qui est mis est vachement plus intéressant, parce que vraiment comme j'ai dit au départ, le cast tourne, chaque personnage presque a sa petite scène intéressante, il en laisse pas un derrière. Ce qui n'était pas le cas de Geoff Johns sur la première partie. Alors certes, une première partie, c'est là pour établir les choses, ok. Mais venant de la part de Geoff Johns, c'est presque une faute impardonnable. C'est un mec qui a l'habitude des events. Jeff Lemire, c'est son premier gros event. Et il s'en sort à merveille.
Ouais, c'est vraiment,
lire
vraiment
des events comme ça... alors, bon, après, est-ce vraiment intéressant ou pas? Je persiste à dire que c'est un event qui va nous annoncer autre chose, donc... Mais franchement,
ouais, au moins, c'est un event qui est pas très long, hein, déjà, de base.
Oui, d'accord, mais nous teaser un event pendant 2 ans pour nous dire qu'en fait c'est juste le prétexte à autre chose, pour moi c'est tromperie sur la marchandise, voilà. C'était le grand truc qui allait tout expliquer, qui était le truc trop attendu, tu vois, avec un Z qui n'existe pas. Trop attendu, mais qui finalement n'est rien, puisqu'on sait que l'intérêt c'est Forever Evil qui va venir juste après. Donc ça, pour moi, ça me dérange, mais même si j'arrive à passer là-dessus, Jeff Lemire, je veux lire d'autres events de Jeff Lemire. Voilà, je veux des events comme ça, où quand on nous met plein de personnages ensemble, chacun a son petit moment.
Ouais.
Et pas forcément dans sa série. C'est ça qui est intéressant. Ce qui est l'intérêt d'un crossover, c'est de voir les personnages agir les uns les autres. Et dans des séries différentes. Sinon, t'achètes ton titre, quoi. Tu fais pas d'event, ça sert à rien.
Et j'avais un peu de retard sur Justice League Dark, et j'étais content de revoir que Zatanna avait retrouvé ses Barési. Enfin, je reviens encore sur les Barési, mais.
Voilà. Oui, mais je vais rien dire. Hein. je suis pareil, hein. Zatanna, quand même.
Je préfère ce look-là. Quoi.
Oui, oui, bien sûr. Ah, quoique avec ses grandes. Ah, bah, si, elle a retrouvé ses grandes cuissardes aussi, ce qui est quand même aussi beaucoup plus sexy. Bref, ça devient ridicule.
Bah, un bail, hein, pour moi.
Oui, non, je voulais ajouter deux, trois petites choses. Le personnage de The Question est super intéressant. Et j'ai presque envie de lire une série Question, tu vois. Là, je écris comme ça, j'ai envie d'aller voir.
Si tu veux le voir plus, va dans Phantom Stranger. Hein.
Oh non. Oh non. Même si je sais que Dan Didio n'est plus au scénario, donc ça devient peut-être un peu plus lisible, il faudrait que je prenne le temps de le faire. Voilà, bon, ça chie. Franchement, ça chie pour tous les personnages. Et surtout pour Amanda Waller. Et qu'est-ce que j'ai pris plaisir à la regarder se faire allumer par tous les personnages.
Je crois que c'est là où elle va commencer à beaucoup manger, en fait.
Pour compenser.
Là, parce qu'elle est tellement, tellement dégoûtée que. Voilà.
Oh putain. En plus, il fait, je sais pas, il doit faire 35 degrés chez moi, ce qui n'aide pas à la folie.
Non. C'est vrai, mais c'est pareil chez moi.
Parce que pour des raisons d'enregistrement, je coupe tout ventilateur pour éviter des bruits parasites.
Oh,
bref, non, très bon épisode. Pour moi aussi, c'est un bail. C'est un bail. J'ai peur, moi, pour la suite, parce que c'est Geoff Johns. Je vais lui faire confiance encore, mais voilà, je vais lui laisser le bénéfice du doute parce qu'il a été très bon, même si depuis ses New 52, il me plaît vachement moins. Au moins, la partie 4 et 5, il y aura du Jeff Lemire dessus. Si c'est de ce niveau-là, finalement, ce sera une bonne histoire. Même si ça n'avance pas des masses. Bye pour toi aussi, hein, c'est
ça ? Un bye pour moi aussi.
Je vais passer alors très vite, parce que je vais éviter de trop spoil. sur Constantine numéro 5, qui est tie-in à Trinity War, bien sûr. Je retrouve juste les crédits que j'ai perdus parce que j'ai fait n'importe quoi. C'est scénarisé par Ray Fawkes avec des dessins de Renato Guedes. Alors, on va suivre dans l'épisode de Justice League Dark 22. Donc, lisez bien Justice League Dark 22 avant, c'est important. Constantine et Shazam s'en vont bras dessous faire des bébés dans les buissons. Non, c'est pas vrai. Mais ils s'en vont juste.
Tu sais que tu parles d'un enfant qui se transforme en super-héros, quoi.
Je sais, mais c'est pour ça que c'est encore très, beaucoup plus drôle puisque c'est une blague pédophile. On va avoir des commentaires horribles.
On va avoir des gros problèmes. Hein,
les gens vont me faire interner après. Bref, ils s'en vont ensemble. Parce que Constantine raconte à Shazam qu'il peut l'aider par rapport à sa famille, à ses pouvoirs, qu'il est au courant de qui il est, et qu'il est détenteur de plein de secrets qui vont l'aider. Et finalement, bah, Constantine est Constantine.
Il fait sa
et donc
pute,
Constantine
quoi.
Est un gros enculé, puisqu'il va utiliser un artefact qui va lui permettre de récupérer le corps de Shazam.
Oh là là.
Donc, mention spéciale à un... Enfin, le corps, non, la voix. En fait, c'est ça qui est plus intéressant, c'est-à-dire qu'il reste dans son corps, mais il a la voix de Billy Batson, et donc quand il prononce Shazam, eh bien Constantine se transforme en Shazam.
Ah, bien joué.
Donc je vous laisse découvrir le look du Constantine Shazam, et surtout de ce qui va se passer, puisque bien sûr les choses vont très très mal se passer, et quel était le but de Constantine derrière, pourquoi ramener Shazam? Il avait bien une idée derrière la tête, c'est ça qui est intéressant. Et alors, cette fin magique, où on fait rappel à un événement qui s'est passé dans le premier épisode. Rappelez-vous l'énorme coup de pute qu'il avait fait à la fin du premier épisode.
Oui.
Eh bien, il va s'en mordre les doigts quand il va... Eh bien, vous découvrirez ça tout seul, parce que je vais pas vous le spoiler,
suspense.
Je suis en enfoiré. J'aime le teasing. C'est un bail. C'est une série sur laquelle j'étais en retard. Je dois vous avouer que j'ai acheté des épisodes 2, 3, 4, je ne les ai toujours pas lus. J'ai lu ce 5 parce que c'était Trinity War. J'ai pas été trop perdu. Peut-être la première page, je comprenais pas trop ce qui se passait. Mais bon, c'était assez clair dans l'ensemble pour être suivi si on ne lit que Trinity War. Donc, assez intéressant. Voilà. C'est vrai que par contre, si on n'a pas lu du tout Constantine, le cliffhanger de fin, bah, il va nous passer largement au-dessus. Bref, un bail. Un bail pour moi. Et on va terminer ces reviews de la semaine avec la sortie du Aquaman 22. C'est scénarisé par Geoff Johns avec des dessins de Paul Pelletier, ancré par Sean Parsons. J'arrête pas de me mettre la gueule dans le micro en plus depuis tout à l'heure. J'espère que ça ne s'entend pas trop. J'ai avancé mon filtre anti-pop et j'arrête pas de me cogner dessus. Alors, on est en plein dans cet arc qui s'appelle Death of a King. Alors lequel? On avait cette espèce d'énorme king, roi, je vais peut-être parler français aussi.
Le vieux roi là.
Bonjour, je suis canadien. cette espèce de roi des glaces zombifiées qui connaît bien Mera apparemment.
Qui vient de Game of Thrones quoi.
Ouais, franchement ça pourrait être un personnage de Game of Thrones, ce serait pareil. Et donc on avait Aquaman qui était parti à la recherche de Mera dans le dernier épisode et qui était rendu dans cette espèce de monde dont j'ai oublié le nom, Xebel ou un truc comme ça. J'ai plus le nom en tête, puis je l'arrive pas à la
j'ai 3 ou 4 numéros de retard sur Aquaman.
Excuse-moi, je viens de te spoil.
Non, mais c'est pas grave.
Et puis, ça chie surtout pour Atlantis, puisque pendant qu'Aquaman n'est pas là, les souris dansent, bien sûr. D'un côté, on a les dissidents qui sont partis chercher Orm en prison. Ils sont partis faire un casse à Belrêve. Et puis, en même temps, l'espèce de mec qui récupère les artefacts atlantéens attaque Atlantis. Avec l'affront quand même suprême de « Je m'assois sur ton trône ». Oh, c'est badass. Je m'assois sur ton trône. C'est quand même vraiment violent. On sent que le mec n'a aucun respect pour Aquaman. Aucun. Oui, j'ai fondu un plan, je suis désolé. Et puis Aquaman qui se bastonne comme il peut face à ce roi surpuissant et qui a énormément de secrets. Puisqu'il va dire à Aquaman que finalement Aquaman est un imposteur, ce n'est pas le vrai roi. Je n'en dirai pas plus, découvrirez par vous-même. Non, franchement, c'est pas mauvais, enfin, c'est loin d'être mauvais. Puis en plus, Paul Pelletier s'est vraiment bien adapté sur ce thème qui est Aquaman. Certes, ce n'est pas Ivan Reis, c'est vrai, mais en termes de faune marine, il est toujours très bon et il a vraiment pris le personnage, il a vraiment bien pris Mera aussi, donc il les tient vraiment bien les personnages, donc ça c'est cool. Non, il n'y avait pas de vanne sexuelle, la seule que je n'ai pas faite de l'émission, c'est ça où tu rigoles.
Mais c'était tellement facile.
Il apprend bien avec ses gros boobs, voilà, ça te va?
Ouais, ça va, ça passe.
Donc on a cette révélation de secret, mais en fait C'est un peu le problème d'Aquaman, et c'est aussi un des problèmes récurrents de Geoff Johns, c'est que on est secret sur secret sur secret. Et ça devient presque lassant. Y a vraiment le gros cliffhanger. On dit, mais en fait, tu ne sais pas tout. Ce que tu croyais savoir, ce n'est pas la vérité. Et ce que tu sais n'est pas ce qui est. Ouais, d'accord. Mais, ok, tu nous le fais une fois sur Green Lantern, tu nous le fais deux fois, tu nous le fais trois fois. Ok, bon, c'est sympa et tout. Mais dans Aquaman, il reprend exactement le même schéma. Ça a fonctionné sur Green Lantern, mais c'est pas que ça fonctionne pas sur Aquaman, c'est qu'on s'y attend. Et du coup, l'effet est presque moins intéressant et perd de sa force. C'est, franchement, la révélation qu'il fait est plutôt cool. On commence déjà à avoir des idées de ce qui s'est passé. À la rigueur, j'espère que c'est pas ça, parce que sinon c'est un peu trop facile et un peu trop visible. Mais bon, à la rigueur, ça reste une bonne idée. Mais c'est gênant parce que c'est éculé comme ficelle. Vraiment. De la part de Geoff Johns, c'est vraiment éculé. C'est un peu le même type de ficelle que l'on a dans Trinity War aussi.
Ouais, et c'est lassant à force.
Mais ça me gêne tellement de devoir dire du mal de Geoff Johns, que j'ai pourtant adoré et adulé. Mais je crois que voilà, il faut tourner la page, et que Geoff Johns n'est plus à la hauteur de ce qu'il écrivait, peut-être dû aussi à ses trop grandes obligations chez DC, qui l'épuisent et qui lui prennent du temps. Bon, bah voilà. Mais ça reste bien. Hein. J'en dépeins un tableau peut-être un peu sombre, mais je vous donne mon ressenti à la lecture de cet épisode. C'est bien, mais c'est trop attendu. Voilà. Donc ça reste un bail, c'est franchement quand même une bonne série, c'est du bon Aquaman, à nous intéresser un personnage qui était pas si franchement mis en avant que ça, ça relève quand même de l'exploit. Malheureusement, l'exploit a bien marché sur Green Lantern, il marche pas aussi bien sur Aquaman. Et puis, je dois avouer que ce côté flotte, bon, c'est Aquaman, en même temps, voilà, je veux dire, on nous dirait Aquaman, il va dans l'espace, je ferais, ouais, t'as fumé, mec.
Ça pourrait être drôle.
Quoique, il y a bien des dauphins dans l'espace, n'est-ce pas, Loco?
Mais oui.
Mais au bout d'un moment, c'est chiant. J'ai envie de le voir agir sur Terre, quoi. Le voir tout le temps dans la flotte, c'est chiant, quoi. Ça me lasse. Et puis, j'ai pas envie de prendre de douche, merde. J'en prends déjà assez en ce moment. Puis ouais, voilà, c'est... Toi, tu crèves de chaud, tu lis ça, tu dis, putain, lui, il est dans la flotte, il est bien au frais et tout.
Mais c'est ce que je regrette un peu dans le fait que, dans le scénario d'Aquaman, du coup, il s'est détourné de la Justice League, c'est que du coup, il fait pas partie de Trinity War. Alors que dans Justice League, il était plutôt bien écrit, je trouve. Enfin, il le tenait bien aussi, et... Bah, c'est un personnage
qui manque.
Il est
pas dans Trinity War ? Putain, je croyais l'avoir vu. Bon, bah, tu vois, j'ai des alus, en plus.
Bah, on le voit beaucoup moins, en fait, hein, maintenant.
Tu vois, j'ai même pas fait attention. C'est pour dire à quel point, en ce moment, je suis attentif à ce que fait DC, quand même.
Mais ouais, mais ça fait bizarre, parce qu'on a ni Hal Jordan, ni Aquaman, en fait, dans la Justice League.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai. La Justice League. Oh putain, j'arrive même plus à parler. La Justice League du pauvre. c'est pas très gentil, hein, dit comme ça.
Mais peut-être qu'il va les faire revenir pour la fin, justement, de Trinity War, ça se trouve.
Ouais, c'est bien possible. Parce que je croyais avoir vu Aquaman sur les covers, quand même. C'est ça qui me... Bah, c'est peut-être une vue d'esprit, hein.
Bah, peut-être. Mais en tout cas, il était sur le poster, oui, du Free Comic.
Bah, voilà, c'est cette fameuse triple cover, là, que l'on voyait, où ils se fight la gueule, comme des oufs. Et puis, ce poster qu'on avait dans le FCBD, bien sûr. Bon, ça reste un bail. Allez, on va terminer par notre partie TP, et on commence TPB, hein, bien sûr, pas TPD.
Oh non,
elle est mauvaise. Mais pourquoi j'ai dit ça? Mais qu'est-ce qui m'a pris? Et dire que je ne ferai pas de montage en plus, c'est que vous aurez l'émission intégrale. C'est une honte. Et je ne rassure, je n'ai toujours pas bu. Hein. Je devrais peut-être d'ailleurs. Ça va être difficile de terminer. On commence par Valiant avec la sortie du deuxième TP de Archer and Armstrong. Ça reprend les épisodes 5 à 9 de cette série de Valiant, toujours scénarisé par Fred Van Lanty, avec des dessins de Emanuela Lupacchino. Bisous. What the fuck. Ça vaut 14,99. Très, très bonne série, encore une fois.
Bah, Valiant. Hein.
Valiant, ouais. Valiant dont on reparlera vraisemblablement soit dans un spécial, soit dans la bibliothèque du mois de septembre, puisqu'il y a la sortie en septembre des premiers Valiant, ouais, voilà, chez Panini. Donc ce sera soit le thème de la bibliothèque, soit un numéro spécial qui reviendra aussi sur l'ancien univers Valiant. Passons à la suite chez Vertigo, la sortie du deuxième TP de Feyrust avec les épisodes 8 à 14, scénarisé par Lauren Bukes, avec des dessins de Inaki Miranda. Une série que je ne lis pas du tout, des covers d'Adam Hughes, hein, toujours.
Ouais,
une série que
je ne lis pas. Moi non plus, puisque je lis tout Fable en VF, moi, perso.
Mais j'en entends toujours du bien, voilà. Mais bon, je le précise, ça a le mérite d'être sorti, et ça intéresse sûrement du monde, puisque c'est une série qui se vend bien et qui continue chez Vertigo. Chez DC maintenant, nous avons la sortie du deuxième TP de Nightwing, série qui n'a toujours pas trouvé son... Ah bah si, elle a trouvé son chemin en français, je suis en train de dire bêtises. Épisode 8 à 12, ainsi que le numéro 0, donc... Nul doute que ça devrait pas trop tarder chez Urban.
Octobre.
J'ai pas regardé.
Octobre.
Ah bah, tu vois, j'ai pas le planning en tête. Octobre. Bon, bah voilà. Soit vous n'attendez pas, vous le lisez en VO, il est déjà disponible au prix de 14,99€. Soit vous attendez le mois d'octobre pour le découvrir en VF. Continuons avec Camelot, une vieille, vieille série Camelot 3000. Donc Camelot 3000.
Camelot 3000.
Un gros TPB pour $19,99 qui reprend l'ensemble des 12 numéros de la série, une série sortie dans les années 80, scénarisée par Mike Barr avec des dessins de Brian Bolland, s'il vous plaît. Hein, quand même.
Bonne équipe.
Ouais, si ça jette pas alors une version futuriste du roi Arthur, de la légende arthurienne, tout simplement. Gros, gros, gros classique, vraiment pas cher. Hein. $20 pour les 12 épisodes, c'est vraiment pas cher.
C'est intéressant, ouais.
Maintenant, chez Dark Horse, nous avons la sortie d'un Creepy Prison Steve Ditko avec 15 des 16 histoires qu'il a écrites pour Creepy, si j'ai bien lu la sollicitation correctement, notamment certaines écrites par la totalité, écrites par Archie Goodwin. C'est la preuve que je fais bien mon travail.
Ouais, c'est une belle collection, ça, parce qu'ils ont déjà fait pour Bernie Wrightson et puis... pour Corben, et c'est de beaux ouvrages.
Et puis c'est le cas, $19,99, ça reste moins cher que les gros volumes là qui reprennent en intégrale les numéros de Creepy. Là, ça se concentre vraiment sur Steve Ditko. Bon, la chance, c'est d'avoir du scénario d'Archie Goodwin. Mais voilà, si vous êtes fan de cet auteur, si vous voulez le découvrir dans un trait beaucoup plus indé, loin de ce qu'il faisait sur Spider-Man, notamment sur Amazing Spider-Man au départ, un trait beaucoup plus poussé, des graphismes beaucoup plus soignés, eh bien voilà, c'est $20. Je défonce encore mon micro, j'arrête pas de taper dedans.
Arrête de lui donner des coups de tête.
$20, c'est vraiment pas cher pour des anthologies comme ça. Voilà. Continuons avec maintenant Marvel. La sortie du deuxième TPB de Extreme X-Men, You Can Go Home Again, c'est le nom du TP, pour $16,99. Épisode 6 à 7, 7.1, ainsi que 8 à 11 de cette très courte série. Il reste un TPB, mais on va y venir juste après. C'est donc la sortie de X-Termination, ce crossover qui clôture la série Extreme X-Men, ainsi que Age of Apocalypse. Et il y a aussi les épisodes de X-Termination qui commençaient et terminaient ce crossover, qui était aussi avec la série Astonishing X-Men. Une phrase
très longue.
Les conjonctions de coordination n'ont aucun sens, mais vous
pour,
avez compris
pour
l'idée.
Pour un crossover qui aura marqué vraiment d'une pierre
totalement
importante tout l'univers
des X-Men. Je veux dire, c'est le crossover à lire si on veut comprendre l'univers X-Men de ces 20 dernières années. Toutes les réponses aux questions que vous vous posez, non, c'est pas vrai, parce que en plus je dis ça, les gens vont le croire, non. Je n'ai aucune idée de ce qui s'y passe, je ne l'ai pas lu. Ce sont des séries dont je me branle, mais à deux mains, tu vas pas le dire. Oui, je lâche la purée comme un fou. Oui, je suis dans le thème, tu vois.
C'est petite blague. Bah, c'est X, Termination.
Non, ça vaut $24,99, nul doute que ce sera sorti par Panini, mais si vous ne voulez pas attendre ou si vous voulez les avoir dans la version originale, surtout dans un seul volume, honnêtement, il y a donc Extreme X-Men 12-13, Age of Apocalypse 13-14, X-Termination 1-2 et Astonishing X-Men 60-61. Le tout pour $25. C'est pas si cher que ça.
Ça reste
honnête, quoi. Voilà.
C'est pas mal.
Passons à du vrai plus intéressant maintenant, pour les fans aussi de Golden Age, il en faut, Marvel Masterworks, Golden Age All Winners. Putain, quel titre de ouf, c'est du TP, alors c'est du Masterworks en TP, ce n'est pas du hardcover,
ouais,
donc ça réduit les
coûts. C'est du moins cher.
C'est $30, ça reprend les épisodes 1 à 4, alors oui, il n'y en a pas beaucoup, de la série All Winners Comics, qui date de 1941, mais il faut penser qu'à l'époque, ces épisodes étaient très gros. Ce ne sont pas des épisodes de 20 pages. Donc oui, il n'y a que 4 épisodes, mais vous avez beaucoup de pages dedans. Voilà, c'est du vrai Golden Age. Ça date de 1940. Si vous avez envie de découvrir cette période, à pas trop cher, parce que c'est vrai que les Masterworks sont quand même relativement pas donnés.
Ah oui, c'est sûr.
Donc là, vous avez les All Winners. Hein, je rappelle, c'est l'équipe de Marvel, enfin Timely à l'époque, pendant la Seconde Guerre mondiale, avec Human Torch et Toro, Captain America et Bucky, Namor, et puis bien sûr d'autres personnages comme Black Marvel, The Angel, Destroyer, The Wither et compagnie. Voilà. C'est du bon, tout ça.
Ouais. Du Golden
Age. Pour les fans d'anciens ou pour le découvrir, justement. Passons toujours de l'ancien chez Marvel Fantastic Four TPB. Oui, j'ai envie de le prononcer comme ça.
TPB.
Crusaders and Titans, ça vaut $30. Ça reprend les épisodes de Fantastic Four 164 à 176 avec des scénarios de Roy Thomas et des dessins de George Perez et Rich Buckler. Avec notamment une chose qui redevient humaine, qui est remplacée par un Iron Fist, non, un Power Man, pardon, excusez-moi, je dis des bêtises, par Power Man dans le rôle de la brute qui tape. Voilà, du bon vieux TPB à l'ancienne avec du bon Fantastic Four. Continuons avec Infinity Incoming TPB.
Ouais.
Veux-tu nous présenter ça, Bruno ?
Alors, Infinity Incoming, c'est pour ceux qui ont manqué des numéros assez récents, en fait, puisqu'on retrouve dedans du Avengers de 2012, les numéros 1 et 2. On retrouve le New Avengers numéro 2, et le Thanos Rising numéro 1, et un vieux numéro d'Inhumans. Donc c'est vraiment une sorte de melting pot un petit peu bizarre qui est censé nous préparer à
Ainsi Infinity. Que du matériel, quand même du matériel de Thor 146 à 149.
Je sais pas quel matériel de Thor c'est, mais.
Ouais, alors là j'ai pas trop compris, mais bon.
Faudra que je vérifie au Comic Shop. Donc voilà, bon c'est intéressant pour ceux qui ont manqué les deux premiers numéros d'Avengers en VO, puisque ils sont plutôt difficiles à trouver maintenant en single. Mais bon, c'est un petit peu bizarre quand même, je trouve cette composition, puisque ça donne envie peut-être de tester les séries, mais ça fait un peu catalogue en fait, presque.
Ben oui, mais c'est souvent ce que fait Marvel malheureusement maintenant avec ses events. Ils font ce genre de truc. Ils l'avaient fait aussi, je crois, pour Age of Ultron, un truc comme ça.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ils avaient fait pareil, ouais. Et ils avaient fait pareil aussi pour AVX. Donc ça.
Le problème, alors, certes, c'est pas excessivement cher. Ça vaut que $16.99, mais pour ce que c'est-à-dire vraiment un truc teasing qui va même pas vous donner vraiment toutes les clés, parce que pour moi, Infinity Incoming, tu reprends les Infinity Préludes qui sortent actuellement dans les Avengers, quoi.
Ouais,
c'est ça qu'il faudrait sortir.
Le pire, c'est que le Avengers, par exemple, c'était le premier arc qui était qu'en trois parties, et on a que les deux premières en plus. Donc,
Oui, alors ça, c'est pareil, c'est un petit coup d'enculé quand même, là, de la part de Marvel.
Ouais.
New Avengers, on a le 2, on n'a pas le 1, c'est pas vachement pratique pour prendre l'histoire. Bon, Thanos Rising, on a le 1, d'accord, c'est le 1, mais d'une mini en 5, ça fout les boules si on rachète le TP de Thanos Rising. Voilà, enfin, c'est quand même vraiment pour tester, ou alors c'est à offrir aux gens, peut-être, aux gens qui ne connaîtraient pas Marvel, on leur achète ça en cadeau d'anniversaire, en fait, tiens, découvre, amuse-toi, share your universe.
Voilà, par exemple.
Pour
partage.
Rester raccord. Non, franchement, à 16,99, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est, en tout cas pour des lecteurs de comics comme nous. Voilà, mon avis. Restons dans les Avengers avec la sortie du Avengers by Brian Michael Bendis volume 5 avec Avengers 31-34, l'annual numéro 1 et l'Avengers annual numéro 1. Oui, je dis l'annual numéro 1, mais j'ai oublié de préciser de la série New Avengers. Pardon.
Ouais, c'est la fin du run de Bendis sur Avengers.
Exactement. Ça vaut 24,99, c'est un petit peu cher, je trouve. Je trouve. Bon, mais on a quand même 3 numéros doubles, le 34, et puis les deux annuals qui sont des numéros doubles, mais je trouve ça un peu cher pour ce que c'est. À mon goût, je sais pas ce que t'en penses.
Oui, si. Puis bon, c'est des kiosques qui sont encore facilement trouvables. Hein, les trois derniers titres d'Avengers avant le relaunch, donc.
En VF. Et enfin, pour terminer notre section TPB, à 19,99 sort Kick-Ass 2 Prélude. Oui, parce qu'on a mis ce titre-là pour faire vente, puisque Kick-Ass 2 sort au cinéma. Au cas où vous ne le sauriez pas. Mon Dieu, je m'appelle Marc Millar et j'aime le coup de com.
Bon, j'aime les sous.
Je me moque, mais Marvel fait pareil avec Infinity Incoming, donc voilà, hein, l'appeler qui casse deux préludes, alors que c'est la série Hit Girl.
Girl, ouais.
Bon, sur la cover, c'est vrai que c'est marqué en gros, en plus gros Hit Girl quand même que qui casse deux préludes. Donc ça reprend la mini-série 1 à 5, scénarisée par Mark Millar, dessinée par John Romita. Je ne l'ai pas lu, donc je me prononcerai pas.
Moi non plus, j'ai pas encore eu le temps. Et c'est à noter que c'est sorti en français, déjà aussi.
Voilà, c'est on vous en parle parce que c'est sorti, mais c'est déjà disponible en français et à moins cher. Parce que ça vaut 19,99.
Tout à fait.
Donc à moins cher. Voilà. Et avec en plus une couverture variante pour les TP, ce qui me fait toujours rire. Je dois avouer que variantes, on en a déjà plein le cul pour les singles.
J'ai pas reçu celle-là au Comic Shop. J'ai reçu la classique avec le dessin de Romita et je préfère parce qu'elle est bien moche, la variante du ciné.
Oui, oui, non, mais moi, ça, faire des variantes pour les TP, ça me fait rire, quoi. On en bouffe déjà tellement pour les singles.
La pire, c'était la réédition de Green Lantern's Secret Origins, là, avec la couverture du film, là, avec la tête de Ryan Reynolds. Là.
Oh
là,
fuck.
Quelle horreur.
Ah ouais, non, mais
faut pas faire ça.
Salir la... Alors, bon, je suis pas si critique que ça sur le film Green Lantern, hein, je le trouve pas si mal que ça. Il est nul, mais il est pas si mauvais que ça. Il aurait pu être 10 fois pire. Hein. Regardons Catwoman, par exemple.
C'est vrai.
Mais... salir du Green Lantern par J. Jones avec la tête de Ryan Reynolds, là quand même, ça pousse loin. Bref, ben voilà. C'est tout pour cette émission
épique.
Complètement déjantée. Épique.
Complètement épique. Hein.
Épique, à glace.
Épique et collégramme.
Hein? Les vannes pourries.
Ah oui, mais là, ouais,
et pique, et trèfle, et cœur, et carreau, bien sûr.
Je crois qu'on peut envoyer notre CV pour. C'est quoi la radio de l'humour là?
Rire et chanson.
Rire et chanson, voilà, c'est ça.
Ouais.
C'est parti.
Ouais, ou peut-être Jamel Comedy Club.
Peut-être Jamel Comedy Club. C'est vrai, tout à fait. Je crois que t'as tes chances, Steve. Mais il faut que tu dormes que 2 heures par jour.
Putain, je vais pas tenir très longtemps à ce rythme-là.
Allez, on va
d'ailleurs,
se coucher.
Je sais pas pourquoi j'ai encore autant d'énergie, je ne comprends pas.
Moi, je pense qu'il faut qu'on aille se coucher là.
Merci à vous d'être resté jusqu'au bout, comme d'habitude. On se retrouve sur la page Facebook, bien sûr, sur le Twitter @comiccity. Et puis, vous pouvez nous envoyer vos mails à l'adresse podcast@comiccity.fr. Nous les lirons, nous y répondrons dans l'émission Le Weekly News. Weekly News qui revient sur toute l'actualité des comics et leurs dérivés avec en préparation. On n'a pas encore de date, mais en préparation, un weekly news en live sur Hangout sur YouTube. Oui, tu pourras nous voir en direct. Pourquoi j'ai fait un bisou, je ne sais pas. Je cherche.
Pensais encore à Emanuela Lupacchino, toi.
Peut-être, c'est peut-être ça.
et surtout, oui, on en parlait avant l'émission, mais n'hésitez pas à partager autour de vous le podcast, à le faire connaître aussi à vos amis.
Avec nos superbes vannes.
Peut-être pas celui-là, oui, en fait. Partagez-en un autre, mais... voilà.
Mon unique
mais
prestation.
N'hésitez pas à partager les podcasts sur vos Facebook, sur vos Twitter et tout, parce que comme ça, on a toujours besoin de bouche à oreille. Donc.
Oui, n'hésitez pas à faire connaître le site et les émissions. Ça nous donnera un grand, grand, grand coup de main. Voilà, on se retrouve le mardi pour le Weekly News et puis samedi prochain pour le prochain Comics Weekly avec encore une fois des sorties complètement folles. Ce sera la 5e semaine, donc il y aura que de la merde. non, plaisante parce que cette semaine étant un peu léger en nombre de sorties, je pense qu'on devrait avoir du bon.
Si c'est comme le mois de juin, on va se manger du lourd.
Ouais, honnêtement, j'avoue que j'ai pas fait bien mon travail. Je n'ai pas regardé déjà ce qui sortait la semaine prochaine. Enfin, je l'ai plus en tête surtout.
Il y a The Wake 3.
Bah voilà. Bon bah déjà, on fera une émission puisqu'il y a The Wake 3. Nous ferons 1h30 d'émission juste sur The Wake où on vous le lira et on vous le détaillera case par case.
C'est Florent qui se caressera en nous parlant de Sean Murphy et de Scott Snyder.
Et ben non, Florent ne sera pas là toute la semaine.
Du coup, on va pouvoir dire de la merde sur The Wake.
Ouais. Puis on dira que Sean Murphy c'est un débutant et qu'il a deux mains gauches.
Exactement. Et qu'il dessine, que toutes ses filles se ressemblent.
On est tous des fous. Voilà, c'est dit. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous. Et très bonne
soirée. Journée.
très bon été.
Allez, à bientôt. Ciao.
À très bientôt.